La première,
13h-14h,
l'agence tourisme,
Walid et Marianne Périlleux.
RTBF La Première, ravi de vous accueillir en ce samedi. Bienvenue dans un nouveau numéro de l'agence tourisme, agence qui ouvre ses portes, ses bureaux pour vous ouvrir sur la Belgique. Comme chaque samedi, on va vous faire voyager au cœur de nos régions, des régions qui ont tant à vous offrir, à vous dire, à vous raconter. Et c'est ce que nous allons faire d'ici 14h avec vous, Marianne. Bonjour.
Bonjour Walid, bonjour à tous.
Comment vous allez en ce samedi, Marianne?
Mais comme tous les samedis, c'est-à-dire très bien.
Ouais, moi je note ça dans mon agenda, vous savez, je note ça avec impatience. Et d'ailleurs, dans cet agenda, la date du 6 juin est importante, date d'anniversaire du débarquement en Normandie. Dit, épisode majeur évidemment de la Seconde Guerre mondiale, c'était il y a 82 ans, une date qui nous a inspiré donc du coup le thème de la semaine, Marianne.
Mais oui, parce qu'il y a en Wallonie de très nombreux sites relatifs à la Seconde Guerre mondiale, des musées, des cimetières, des stèles, des lieux de recueillement, créant ce qu'on appelle aujourd'hui bien une nouvelle forme de tourisme, c'est le tourisme mémoriel. C'était donc aujourd'hui opportun que nous en parlions.
Et c'est un thème qui nous emmènera dans plusieurs provinces du pays, tout d'abord dans le Hainaut, on s'arrêtera au Mons Memorial Museum pour évoquer notamment les nombreux actes de résistance posés par des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous irons aussi au pays de Herve pour découvrir le cimetière américain Henri Chapelle sur la commune de Plombières à Hombourg. C'est aussi en province de Liège que vous avez, Marianne, réalisé le reportage de la semaine.
Mais oui, je vous ferai découvrir l'abri anti-aérien qui se cachait sous les bains et thermes de la Sauvenière à Liège, aujourd'hui devenue la cité miroir. Alors cet abri anti-aérien vient d'être réhabilité après une longue phase de travaux. Il ouvre au public ce week-end. Et je l'ai visité pour vous en exclusivité il y a quelques jours pour lever le voile sur ce que les visiteurs pourront y découvrir.
Ouais, un reportage à découvrir dans la seconde partie de cette émission qui mettra aussi le cap sur la vallée de la Semois pour vous parler de la route du Maquis, un circuit autoroutier de 170 km qui revient sur les lieux où sont jadis constitués des maquis de résistance. Donc voilà, l'agence tourisme, comme tous les samedis sur RTBF La Première, c'est parti, j'ai envie de dire même embarquement immédiat.
Imaginez une destination où tout est tout près de tout. Visite Wallonia, tout pour s'évader.
L'agence Tourisme sur La Première.
Le tourisme mémoriel relatif à la Seconde Guerre mondiale, c'est donc le thème de l'agence Tourisme en ce samedi 6 juin. Et on vous en parle jusqu'à 14h avec deux invités. Tout d'abord, Corentin Roussman, conservateur du Mons Memorial Museum. On vous avait déjà accueilli en novembre dernier, Corentin, pour parler du tourisme mémoriel de la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai qu'on s'était dit, Corentin, que ça vaudrait quand même la peine de faire une autre émission, cette fois-ci, sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà qui est donc fait. Votre musée qui parle autant de la Première Guerre mondiale que de la Seconde, ou c'est l'inverse ?
Non, on parle autant de la Première que de la Seconde. Évidemment, on commence par la Première et on finit avec la Seconde.
Voilà, un musée qui retrace l'histoire militaire de Mons aussi. Hein,
c'est vraiment ça l'objectif, c'est à travers des témoignages et à travers l'histoire de Mons, on découvre en fait la Première et la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, un musée qui invite à la réflexion, qui propose aussi une lecture humaine des grands conflits avec aussi des objets. Enfin, voilà, c'est un musée vraiment qu'il faut impérativement aller visiter, bien entendu.
Et on en parlera bien sûr. Il y a aussi avec nous en studio Amandine Jaunet, qui est, je cite, c'est votre titre officiel, Amandine, Cemetery Associée, en français, associée de cimetière. Vous travaillez au cimetière américain Henri Chapelle à Hombourg, à l'est de la province de Liège. Le site offre d'ailleurs, je le signale, un magnifique point de vue sur le plateau de Herve. Bonjour à vous. Alors un mot tout d'abord sur votre fonction, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire, Cemetery Associée?
C'est vrai que c'est un peu une casquette.
C'est bizarre.
Fourre-tout. C'est un titre qui est vraiment spécifique à nos sites. Je vais avoir plusieurs rôles. Je fais l'administration, je m'occupe des ressources humaines, je fais parfois des visites guidées, on accueille des familles américaines, il y a plein de choses.
Bien, vous travaillez donc dans ce cimetière dédié aux soldats américains qui sont tombés lors de la Seconde Guerre mondiale. Il y en a près de 8000 à Henri Chapelle. Mais par qui finalement est-il géré ce cimetière ?
Donc ce cimetière, comme tous les cimetières américains qui vont se trouver à l'extérieur des États-Unis, sont gérés par une agence fédérale indépendante des États-Unis qui s'appelle l'American Battle Monuments Commission.
En résumé, on dit
BMC, oui, tout à fait. Et donc cette agence, qui a été créée en 1923, au sortir de la Première Guerre mondiale, avait pour but de maintenir les sites en état pour accueillir les vétérans, pour accueillir les familles de soldats qui étaient enterrés dans ces sites. Et puis avec le temps qui passe, on a commencé à aller vers la médiation culturelle, essayer de participer à ce tourisme de mémoire.
Ouais, c'est un territoire belge, mais qui appartient aux Américains, c'est ça ?
C'est ça, donc on est bien en territoire belge, il y a une légende qui court que
mais
ce
oui,
sont des terrains américains. Ouais. Alors, comme une entreprise américaine qui posséderait un bâtiment, ben là c'est pareil.
D'accord, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire en tout cas sur ce cimetière, et on en parlera bien évidemment avec vous dans quelques minutes, Amandine. Mais c'est avec vous, Quentin, qu'on commence cette plongée dans le temps, dans ces événements tragiques de la Seconde Guerre mondiale, un conflit qui démarre chez nous le 10 mai 1940, avec, on le sait, l'invasion allemande, la ville de Mons qui subit elle aussi les affres de l'occupation dès les premiers jours du mois de mai. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Est-ce qu'on peut revenir dans cette histoire et se souvenir?
Il faut se souvenir déjà qu'il y a cette fameuse drôle de guerre qui commence dès 1939, que la Belgique est un pays neutre, que les troupes britanniques et les troupes françaises sont sur les territoires français, qui est la fameuse ligne Maginot qui protégerait d'une invasion allemande la France. Et en fait, jusqu'au moment où, au début mai, le 10 mai, les Allemands entrent sur le territoire de la Belgique, et au même moment, les Français et les Britanniques qui rentrent sur notre territoire, les Français passent par Mons, et qu'est-ce qui va se dérouler? C'est ça le moment et l'élément le plus difficile de ce début de Seconde Guerre mondiale, ce sont les réfugiés. Plus d'un quart de la population belge fuit vers la France. Pourquoi? Pour ne plus revivre l'occupation de la Première Guerre mondiale. Ouais. Voilà, ça a tellement traumatisé les civils. Et en fait, ces civils, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bloquer toute possibilité de l'armée française, l'armée britannique et de l'armée belge de pouvoir avancer, de pouvoir bloquer l'avancée allemande et les Allemands qui sont militairement beaucoup plus puissants que les trois autres.
Ouais, une large part d'ailleurs du musée dédié à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et en particulier aux héroïnes de la résistance parmi elles. Cécile de Tournai et Marguerite Berwoutz.
Oui, donc ces deux personnalités qu'on met particulièrement en évidence au sein du Mons Memorial Museum, elles ont été arrêtées toutes les deux alors qu'elles prenaient des photos au champ d'aviation de Chièvre, c'est juste en face de Paris-Deïsa.
Mm-hmm. Assez rapidement, lors des conflits.
Ah oui, on est en 1942 elles se font attraper toutes les deux, et Marguerite dit à Cécile, je prends toute la responsabilité de cet acte, et elles vont ensuite, il va y avoir des perquisitions chez elles, aussi bien chez Marguerite que chez Cécile de Tournai. Mmh. Chez Cécile de Tournai, tout est caché en dessous de la ruche. Les Allemands vont rien retrouver. Chez Marguerite Berwoutz, ils vont retrouver des éléments confirmant qu'elle fait bien partie de la résistance. Elles vont être jugées toutes les deux en Allemagne.
Oui.
Marguerite Berwoutz va être condamnée à mort. Cécile de Tournai, condamnée à 8 ans de travaux forcés.
L'Athénée Royale de Mons, d'ailleurs, qui porte son nom.
Il y a l'Athénée Royale de Mons qui porte son nom. Il y a une rue aussi qui porte son nom. Mais c'est ça aussi un grand débat que l'on peut avoir. On parle beaucoup de Marguerite Berwoutz parce qu'elle était condamnée à mort. Elle était décapitée dans un camp. Les hommes étaient fusillés, les femmes décapitées.
Ah, c'est fou,
c'est une mort plus sereine, en fait, la décapitation par la guillotine, qu'être fusillé. Et donc, Cécile de Tournai, comme elle est revenue des camps, elle a fait la marche de la mort. Travaux forcés. On n'a pas, il n'y a pas d'école, il n'y avait pas de nom de rue. Et donc, nous, on fait tout ce travail de mémoire pour un peu aussi donner de la visibilité à Cécile de Tournai, parce qu'elle a pris autant de risques que Marguerite Berwoutz.
Et elle brode, elle crée des objets aussi qu'on peut retrouver au musée.
Alors, tout à fait. Ça, c'est Cécile de Tournai. Pendant toute son incarcération, elle va broder, elle va écrire. Et il y a un sac à pain qui est extraordinaire, qu'on a reçu récemment, où elle va broder l'ensemble des endroits où elle est passée, dans toutes les prisons. Elle va noter qu'elle est condamnée, elle va noter les numéros de ses cellules. Et surtout, ce sac à pain, c'est vous mettez les choses qui sont essentielles pour votre vie, c'est la nourriture.
Ouais.
C'est ce qui vous permet de tenir jusqu'à la fin de la journée. Et elle va marquer son nom, elle va broder son nom sur ce sac. Et donc, qu'est-ce qu'elle veut laisser? C'est quoi ce sac? Quelle postérité il peut avoir? Est-ce que c'est aussi un témoignage qu'elle voudrait laisser à sa famille si elle décède, vu qu'elle est incertaine de savoir si elle va savoir passer à travers ces épreuves?
C'est un objet, évidemment, à forte valeur mémorielle. Et vous vous battez pour que cet objet, en particulier, soit reconnu trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles?
C'est un des objectifs qu'on s'est mis, c'est véritablement de faire reconnaître ce sac, parce qu'il porte une valeur mémorielle extraordinaire dans notre histoire culturelle commune. Et donc, il est important de pouvoir classer ce genre de pièces pour indiquer vraiment l'importance de cette histoire et qu'elle reste véritablement présente en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Et maintenant que vous êtes passé sur la première, je peux vous dire que c'est bon. C'est ok, c'est fait. Certains montois s'engagent dans la résistance, mais l'inverse est vrai aussi. Certains d'entre eux deviennent collaborationniste, voilà, et vous en parlez aussi dans le musée ?
Évidemment, donc il y a des jeunes à Mons ou dans les autres villes de Wallonie qui vont rentrer dans les SS ou dans la Légion Wallonie. Et alors, les raisons pour lesquelles ils rentrent là-dedans, ça c'est voilà, peut-être une envie de partir à l'aventure, de partir avec la propagande qui est faite pour inviter tous ces jeunes à rentrer dans l'armée allemande. Eh bien, il y en a qui le font. Et ils se retrouvent sur le front de l'Est. Ils vont combattre en Russie ou en Ukraine, et souvent avec un destin funeste pour ceux-ci.
Ouais, c'est important aujourd'hui d'aborder ces aspects, la résistance, comme la collaboration en fait.
Évidemment, parce qu'aujourd'hui, quand on explique ça aux populations et surtout aux plus jeunes, on leur dit, quand on fait des visites au musée, on leur dit, qu'est-ce que vous ferez, collaborateur ou résistant ? Ils répondent tous résistants. Je dis, mais mettez-vous à la place. Et surtout, est-ce que vous allez risquer votre vie ? Parce que on attend
dans le contexte géopolitique, en plus dans lequel on vit pour le moment.
Mais c'est clairement plus pertinent, mais bien sûr.
Et surtout, on leur parle de la propagande, parce que qui plus que les gens qui sont sur les réseaux voient de la propagande d'un côté comme de l'autre. Et c'est là où l'analyse de l'information est extrêmement importante, et l'éducation à l'analyse de l'information est essentielle. Et c'est ça qu'on fait. On est un musée d'histoire, mais avant tout, on est un musée de société.
Ouais, donc c'est transmettre, connecter les réalités de la guerre avec notre société aussi. Actuelle. Et puis, dans l'histoire, arrive la libération de Mons, les 2 et 3 septembre 1944. Mons, la première ville belge à être libérée par les Américains. Et pourtant, ce n'est pas la fin des exactions, elle continue.
Pendant la libération, on va avoir des exactions, et surtout envers les résistants. De nombreux résistants vont être fusillés. On a un site à Coëm, la Malogne, où on a un monument commémoratif et chaque année des grosses cérémonies commémoratives pour se souvenir des résistants qui ont été fusillés par les Allemands, alors qu'on était en plein combat et que les Américains étaient déjà là. Il faut s'imaginer que sans la libération de Mons, on va avoir plus ou moins 70 résistants qui vont tomber et 90 soldats américains. Donc on est au presque même niveau du nombre de résistants et de soldats américains qui vont tomber. Par contre, au niveau du nombre de soldats allemands qui vont mourir durant la libération, il y a plus de 3000. Et il faut s'imaginer qu'il y a plus de 25 000 prisonniers allemands qui sont faits dans cette fameuse poche de Mons en 1944.
Alors, vous parlez de la libération de Mons, Corentin. Vous commémorez tous les ans la libération de Mons via votre musée. Comment vous collaborez à ces commémorations avec
le musée ? Donc, chaque année, on fait des grosses commémorations. Et on a aussi l'organisation de Thanksington. Tout à fait, c'est toujours le dernier week-end du mois d'août, premier du mois de septembre. Ouais. Et donc, il y a plusieurs centaines de véhicules de la Seconde Guerre mondiale qui s'arrêtent devant le musée, qui vont sur la Grand Place de Mons. Et il ne faut pas oublier qu'à Mons, il y a la base de l'OTAN, le SHIP. On a la présence de nombreux militaires qui participent à cet événement. Ça rassemble des milliers de personnes et c'est extrêmement intéressant de pouvoir découvrir ces pièces de collection. Surtout que nous, on a le Fish and Chip, qui est un char de reconnaissance Stuart, qui est le premier à libérer Mons, qui fonctionne toujours et qui est le premier à commémorer. Donc, il roule encore plus de 80...
C'est le premier qui est rentré à Mons.
C'est le premier qui est rentré à Mons, char Stuart, le Fish and Chip. Ouais. Et en fait, c'est lui qui est en tête de parade pour arriver jusqu'à la Grand Place.
Eh bien voilà, notez cela déjà dans votre agenda. Donc, c'est fin août, début septembre. On rappelle que votre musée, le Mons Memorial Museum Corentin, est ouvert du mardi au dimanche. Je vous invite évidemment à le découvrir. Chose importante également, il est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, ai-je vu ?
Tout à fait, totalement accessible, ascenseur et tout ce qu'il faut. Pour les enfants aussi, il ne faut pas avoir peur d'ouvrir les portes de ce musée parce qu'il est vraiment accessible. Il y a même un petit livret pour les enfants à l'entrée.
Ah ben c'est formidable. Toutes les infos sur le site du pôle muséal de Mons. Voilà.
On va quitter la province de Hainaut pour la province de Liège à présent, après le Mons Memorial Museum. Cap sur le cimetière américain Henri Chapelle à Hombourg et c'est tout de suite dans l'agence tourisme.
L'agence tourisme sur la première.
On s'intéresse maintenant, et on l'a un peu évoqué, au cimetière américain Henri Chapelle à Hombourg, sur la commune de Plombières. Nous sommes ici au pays de Herve, et pour en parler, donc c'est avec vous, Amandine Jeunet, que nous avons en studio. Vous êtes aujourd'hui donc Cemetery Associate.
C'est beaucoup mieux.
Associée de cimetière.
C'est assez particulier, hein, mettre ça sur son CV, associée de cimetière. Vous nous expliquiez tout à l'heure en quoi ça consistait. Expliquez-nous ce cimetière américain. Il comprend les corps des soldats tombés lors des combats qui sont déroulés en Belgique, ou c'est plus large que ça ?
Alors, c'est plus large que ça. Donc, le site a été créé en septembre 1944, au moment où la région d'Hombourg a été libérée très, très vite. La première armée qui arrivait ici, à sélectionner un terrain pour en faire un cimetière militaire.
D'accord.
Il faut savoir que les gens qui créaient les cimetières, enfin les unités de l'armée qui créaient les cimetières, suivaient les troupes avec l'avancée vers l'Allemagne. Et donc, on créait des cimetières à différents endroits sur leur chemin. Maintenant, la volonté des États-Unis à l'époque était qu'aucun américain soit enterré en territoire ennemi. Et donc, on va retrouver pas mal de cimetières à la frontière avec l'Allemagne. C'est pour ça que notre site est à cet endroit-là. Les batailles, ou en tout cas les conflits qui sont le plus représentés dans le cimetière à l'heure actuelle, on a évidemment la bataille des Ardennes, on a évidemment la traversée de la Belgique, mais on a la libération d'Aix-la-Chapelle, qui est la première grosse ville allemande où les alliés sont arrivés et se sont battus. Mmh. On va avoir aussi toutes les batailles au niveau de la zone de la forêt de Hürtgen, qui est à l'est-sud-est d'Aix-la-Chapelle, qui étaient vraiment des combats très difficiles, très sanglants, parce que le terrain était très bien protégé, les Américains ne s'attendaient pas à avoir une zone si bien défendue. Et ensuite, toute la marche vers Berlin, qui va être couverte aussi. Alors, passer les rivières, etc. Ce serait long si je rentre dans tout.
Mais au départ, en réalité, il y a deux sections.
Tout à fait. Donc ouais. En fait, il faut imaginer que le cimetière de l'époque n'a rien à voir avec le cimetière actuel.
Il y avait une section pour les soldats allemands.
C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc, il y avait à peu près 17 000 Américains qui étaient enterrés, à peu près 10 000 Allemands, donc on a quand même énormément d'Allemands qui étaient enterrés sur place, mmh. et environ 200 alliés.
Et donc ces cimetières ont subsisté ensemble jusqu'au quand ?
Jusque la fin de la guerre, donc on va dire 45-46. Ouais. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle le procédé de rapatriement. Déjà, tout le monde a été exhumé. Les Allemands ont été déplacés vers le cimetière de Lommel, mmh. En Belgique, qui mmh. était déjà un cimetière de la Première Guerre mondiale, qui est devenu un cimetière des deux guerres. Les alliés ont été renvoyés vers des cimetières du Commonwealth ou des cimetières belges, parce qu'on avait des Belges aussi qui étaient enterrés dans le site. Et pour les Américains, chaque famille américaine qui avait un membre de leur famille enterré chez nous a reçu un courrier leur demandant...
Il fallait leur demander l'avis à ces
voilà,
familles.
Voilà, c'est
ça. Est-ce que tous les corps ont été rapatriés voilà.
Donc voilà, ils ont posé la question aux familles et en fonction de leur choix, ils pouvaient partir ou rester. Ouais. Et il y a à peu près 60% qui ont été rapatriés aux États-Unis, aux frais des États-Unis.
Mmh.
Mais tous les corps n'ont pas été identifiés en réalité, Amandine.
C'est tout à fait exact.
Ouais.
On a pour tous les cimetières ouais. de la BMC un certain nombre de corps qui n'a pas pu être identifié.
Ouais.
Chez nous, il y en a 94.
Mmh.
Et donc, dans ce cas-là, on va avoir une pierre tombale, hein, quand même, ils ont chacun une tombe. Mais au lieu d'avoir un nom, on va avoir une phrase en anglais qui explique que c'est un soldat inconnu.
Oui, il y a des soldats disparus aussi.
On a aussi les soldats disparus, tout à fait. Donc, ouais, c'est un peu le pendant hein, des soldats inconnus.
Ouais, c'est ça.
C'est la manière dont je l'explique quand on donne des visites guidées. C'est un peu comme à l'école, dans l'armée, chaque unité va avoir une liste. On fait l'appel le matin, on fait l'appel le soir. Quand on voit qu'il en manque,
ouais.
on note qui manque. Et si mmh. on ne les retrouve pas à la fin de la guerre, ils sont déclarés comme disparus. En tout cas, ils vont être rapportés sur nos sites. Et donc, on a des murs des disparus qui vont reprendre toute
C'est
une
ça.
Liste de noms des soldats qu'on n'a pas retrouvés.
Mais pour les soldats qui ne sont pas identifiés, il y a encore des exhumations tous les ans.
Tout à fait.
J'ai appris avec tout ça.
Donc en fait, ça, c'est la défense américaine qui s'en occupe. Hein, ce n'est pas nous directement. Ils ont une branche de la défense qui s'appelle DPAA. C'est un acronyme un peu long, mais si vous tapez DPAA sur Google, vous trouverez. Et leur mission, c'est vraiment d'identifier les soldats qui n'ont pas pu être identifiés
ouais.
et de retrouver les soldats disparus. Et pas que pour la Deuxième Guerre mondiale, hein, pour toutes les guerres
ah oui,
américaines.
Uh-huh.
Et donc, tous les ans, on a des exhumations de certains soldats pour qui on a une petite idée de qui ça pourrait être.
Uh-huh.
Et quand on a de la chance, ils sont identifiés.
Mais j'imagine, Corentin, que vous aussi, dans le musée, vous mettez en lumière ces anonymes, en tout cas ces hommes qui ont disparu, qui n'ont pas laissé de traces, quand je dis de traces, de leur nom physiquement.
Oui, on présente tout le monde, ceux qui sont disparus, ceux qui ont survécu. Et c'est particulièrement à travers les témoignages que l'on peut présenter toutes les histoires qu'ils ont pu raconter. Et puis, un élément qui est assez intéressant, c'est que chaque régiment américain fait un état des lieux de, aussi bien des hommes, mais aussi bien des actions qu'ils ont fait pendant la journée. Mmh. Et ces témoignages-là permettent de pouvoir recouper énormément d'informations et de retrouver, de mieux comprendre comment s'est déroulée la libération de la Belgique.
Et vous êtes aussi, Amandine, en lien avec les familles qui viennent là aussi rendre hommage à leurs défunts. Des moments, j'imagine, toujours émouvant, des histoires parfois étonnantes. Pouvez-vous nous partager un des moments que vous avez pu vivre, qui vous a marqué, vous, personnellement ?
Oh, il y en a beaucoup,
Il y en a beaucoup, mais si je veux... Il y en a un, mais je n'étais pas tout à fait présente. C'était mon superviseur à l'époque qui était là pour accueillir la famille.
Mmh.
Et c'était la femme d'un soldat qui a 95 ans, est venue pour la première fois sur la tombe de son mari avec sa fille.
Ah ouais.
Elle n'avait jamais pu faire le voyage avant, parce que bon, c'est un coût, hein,
faut
bien imaginer. Et donc, elle a pu venir avec sa fille, se recueillir, et elle est décédée l'année d'après. Et donc, elle était vraiment, c'était sa volonté avant de partir, elle voulait pouvoir se recueillir sur le site.
C'est un site qui est assez fréquenté, 40 000 visiteurs par an, m'avez-vous dit, et c'est une estimation, parce que vous n'avez pas vraiment de système de comptage.
Oui, alors voilà, on a un système de comptage mais qui est approximatif. On a, si on fait une moyenne sur plusieurs années, voilà, on est entre 20 et 30 000. Ouais. Alors on a des pics par moment.
C'est ça.
Oui, c'est assez visité. On a des visiteurs qui viennent d'un peu partout. Bah, oui. Beaucoup de locaux, évidemment. Les Belges sont très impliqués par le site.
Le tourisme de mémoire, oui.
Par le
et
tourisme
ce site
de mémoire aussi.
Oui.
On a beaucoup de Néerlandais qui viennent, d'Allemands. On est vraiment à la frontière. Donc c'est aussi intéressant pour ça. C'est qu'on a un peu tout qui se mélange et les différentes approches de l'histoire aussi qui se mélangent. Et on a beaucoup d'Américains et puis...
Et beaucoup d'enfants, parce qu'une chose qui m'a étonnée lors de ma visite, c'est qu'on peut marcher sur les pelouses, en quelque sorte
pour
sur
nous,
les
surprenant.
Corps. Oui, voilà, c'est ça. Et ça, c'est une chose, à mon avis, qu'il faut expliquer, notamment aux enfants.
Tout à fait.
Donc, ça doit
pas que pour les enfants, hein, il y a certaines personnes,
qui ne suis plus une enfant.
Nous,
oui, voilà.
Chez nous, c'est vrai que c'est pas commun. Il y a beaucoup de cultures pour lesquelles c'est pas du tout vu comme respectueux de marcher au-dessus des tombes. Aux États-Unis, hein, si vous regardez des films ou des séries, vous allez voir que c'est assez souvent le cas. Il y a juste la pierre tombale.
Ouais.
Et donc, on explique que c'est tout à fait faisable. Maintenant, on dit aussi aux gens, si vous ne voulez pas, il n'y a pas d'obligation, même pendant les visites guidées. On veut pas non plus mettre les gens mal à l'aise. Plus qu'on peut l'être dans un cimetière.
Le site est précisément ouvert toute l'année. Il est possible d'y faire des visites guidées, plus ou moins courtes, plus ou moins longues.
Tout à fait.
Sur réservation, tous les jours, et c'est gratuit.
Oui.
Il faut le dire, il suffit d'envoyer un mail via votre site.
Ça.
Et c'est une visite que je vous conseille également, d'autant plus que le site est très grand, 23 hectares au total. Oserais-je dire qu'il se dégage une forme de beauté de ce site ?
Est-ce choquant de dire cela ? Et de sérénité aussi.
Oui. Moi, je trouve. Mais après, voilà, chacun son avis. Mais oui, c'est vrai que surtout quand il fait beau, ou en plein hiver, quand il y a plein de neige partout. Ça, c'est vraiment...
Voilà, le tourisme mémoriel et le devoir de mémoire, toujours au programme ce samedi dans l'agence tourisme d'ici 14h. Et dans quelques minutes, nous serons à Liège, au cœur de la cité ardente, pour vous parler de l'abri antiaérien de la cité miroir qui ouvre ce week-end au public après une importante rénovation. Mais avant cela, un peu de musique avec Stéréo Grande, Everything is Gold, et au prix de l'or, on va en profiter. Everything is Gold, c'était Stéréo Grande sur la première. On replonge dans le débarquement, on parle du 6 juin. Aujourd'hui, tourisme mémoriel dans l'agence tourisme.
L'agence tourisme sur la première.
Et place au reportage de la semaine dans l'agence tourisme avec vous, Marianne.
Oui, je vous emmène à la cité miroir, un lieu aujourd'hui dédié à la culture, à l'esprit critique et au travail de la mémoire en plein cœur de la cité ardente, là même où se trouvaient les anciens bains et thermes de la Sauvenière que de nombreux liégeois ont fréquenté. Aujourd'hui, 300 événements tout genre, expositions, spectacles, parcours immersifs et j'en passe, sont organisés chaque année à la cité miroir depuis son inauguration en 2014. Mais il y a donc maintenant et dès ce week-end la possibilité de visiter enfin l'abri anti-aérien construit jadis sous les bains.
Enfin, parce que c'était très attendu, j'imagine. On attendait ça avec impatience.
Mais oui, parce que cette ouverture était, en effet, Walid, très attendue depuis un certain temps par les passionnés de patrimoine et par les passionnés d'histoire. Peut-être vous-même, Corentin, je vous vois attentif.
Ah oui, clairement, c'est un endroit extraordinaire, donc c'est fabuleux.
Très bien. C'est un lieu dont on connaissait bien évidemment l'existence, mais qui n'était pas accessible au public, sauf en de rares occasions. Alors, si c'est aujourd'hui possible, eh bien, c'est grâce à d'importants travaux de réhabilitation en partie financée par le plan de relance de la Wallonie. Le chantier a duré plus d'une année, tant il y avait à faire, en tenant compte du fait que cet abri est classé comme monument, et c'est d'ailleurs le seul à bénéficier d'une telle protection.
Là, donc s'il est classé, c'est qu'il a servi, j'imagine, pendant la guerre.
Ben oui, il a servi, il pouvait accueillir jusqu'à 400 personnes. Il était donc assez grand. C'est l'une des particularités du lieu, mais il y en a d'autres, et notamment son architecture, qui est composée de 6 alcôves circulaires interconnectées, ce qui est tout à fait unique. J'étais en tout cas très curieuse pour ma part de le découvrir. C'est ce que j'ai fait en compagnie d'Axel Van Arten, directrice de l'association qui gère la cité miroir, qui s'appelle MNEMA. C'est une association qui est également reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme centre pluridisciplinaire de la transmission de la mémoire. Allez, je vous y emmène.
C'est parti.
On a descendu ces quelques marches d'escalier. On a du mal à imaginer, évidemment, que cet abri, il ait été construit dans les années 40.
Oui, effectivement. Et c'est un abri qui était à l'époque pensé pour les premières attaques aériennes pour pouvoir protéger les civils, à la fois ceux des bains et thermes de la Sauvenière, puisque cette alcôve ici est sous les bains, c'est-à-dire qu'on est sous la piscine de l'époque, mais aussi c'était destiné aux gens du quartier de la Sauvenière. Et donc c'était vraiment un lieu qui était destiné à accueillir les personnes pendant un temps potentiellement assez long. Et donc ça avait été pensé de manière très complète pour pouvoir accueillir les civils.
La preuve, c'est qu'il y a des latrines, il y avait des douches.
Oui, c'est une particularité de cet abri antiaérien. En fait, les bains internes de la Sauvenière, c'était un lieu qui a été conçu pour amener l'hygiène aux citoyens. Et donc, cette notion de besoin d'hygiène a été intégrée dans la conception de l'abri antiaérien lui-même.
Alors, l'architecture de cette pièce est assez particulière parce qu'elle est ronde.
Oui, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le lieu est classé. Donc, plusieurs raisons pour ça. C'est notamment le fait qu'il y a 6 alcôves indépendantes les unes des autres, mais aussi le fait qu'on est sur des alcôves arrondies. On est sur un plafond arrondi qui était là pour soutenir le poids du bâtiment avec quelques étages plus haut, puisque c'était au 4e étage qu'il y avait une immense piscine de 33 mètres. Et donc, ça fait aussi partie de cette architecture un tout petit peu particulière de cet abri. Une autre des particularités, c'est le système de gaine qui était un système d'aération. Et donc, on peut voir dans 3 des alcôves sur 6 dans la réhabilitation ces gaines d'aération. Alors, il faut dire qu'elles ne sont pas authentiques parce qu'elles étaient en amiante. Et donc, bien sûr, elles ont été remplacées.
On a dû intervenir.
On a dû intervenir, oui, effectivement. Donc là, pas de souci, le public peut être rassuré, elles sont en stuc et donc pas de problème. Et alors, il y a aussi les portes qui sont d'époque et qui sont très particulières aussi et qui ont fait que le lieu a cette atmosphère tout à fait unique.
Oui, et assez particulière. Alors, les portes, elles sont... Je m'approche d'une porte d'ailleurs, celle-ci par exemple, elle est forcément en métal.
Oui, et en fait, c'est vraiment ce qui permettait d'isoler les alcôves les unes des autres. On voit qu'il y a un système de fermeture qu'on pouvait tourner comme ça. Mm-hmm. Et donc, en cas d'attaque, on peut imaginer que si une des alcôves était endommagée, les autres n'étaient pas nécessairement impactées.
On sait donc qu'il y avait des douches. À mon avis, on y est d'ailleurs dans ces anciennes douches. Donc c'est aussi une pièce qui sera accessible aux visiteurs.
Oui, absolument. C'est vrai que quand on passe dans les alcôves, on a un petit peu cette impression de labyrinthe parce que les alcôves se ressemblent. Et puis quand on sort de cette partie d'alcôve, on se rend compte qu'il y avait quand même encore des lieux. Ce n'est pas la fin de l'abri. Et donc il y avait donc des douches qui étaient prévues. Pour rappel, on est donc sous les bains et thermes de la Sauvenière à l'époque. Et donc cette notion d'hygiène dont on a parlé tout à l'heure, elle était importante. Et donc on est dans ce fameux lieu où on a plusieurs douches qui étaient potentiellement utilisables par les personnes dans l'abri. Maintenant, on ne sait pas si elles ont été utilisées.
Ah bah oui, comment savoir? À part par les témoignages, évidemment.
Oui, et dans nos témoignages, on n'a pas de personne qui évoque cette utilisation de douche. Il faut savoir que la chronologie de l'abri est un petit peu étonnante, puisque les bains et thermes ont été pensés en 1935. L'abri a été rajouté en 1938, mais les bains et thermes n'ont ouvert qu'en 1942. Et donc, l'abri aussi n'a ouvert qu'en 1942. Et donc, les envahisseurs nazis étaient déjà présents, on était déjà sous l'occupation. Et donc, l'abri n'a pas servi à ce moment-là. Par contre, il a servi... C'est un peu étonnant. Après la libération, au moment de la bataille des Ardennes, au moment de l'attaque des V1 et des V2 sur la ville de Liège, et donc là, l'abri a servi. Mais ces attaques ne duraient pas plusieurs jours, et donc il n'y a pas nécessairement eu besoin d'utiliser les douches. Donc on ne sait pas exactement si elles ont été utilisées ou non.
Ouais, un abri anti-aérien avec une visite qui se veut, j'imagine, immersive, Mariana.
Mais les mêmes carrément, grâce à un parcours 360 degrés incluant son et lumière. Je vous en laisse d'ailleurs écouter quelques notes, manière de vous plonger un petit peu dans l'ambiance. Voilà. Vous entendez ? Voilà, c'est par ces quelques notes que vous allez découvrir l'histoire de cet abri anti-aérien. Et je propose de continuer la visite en découvrant une autre alcôve. Écoutez plutôt.
Dans cette alcôve-ci, on est donc de nouveau dans une des alcôves rénovées à l'identique avec les gaines. Le public va être plongé en 44 au moment de ces fameuses alertes avec les attaques de V1 et V2. Et le public va découvrir des personnages qui vont discuter de quoi on aurait pu parler en 44 quand on ne se connaît pas et qu'on descend dans un abri antiaérien. Et donc, il y a différentes thématiques qui vont être abordées. La perte de l'être cher, la perte des biens, bien sûr, le marché noir, enfin voilà, toute une série de petites thématiques. Et puis alors, petit spoiler alert, il y a une histoire de chat. Et donc, pour savoir ce qui arrive au chat dans l'abri antiaérien, il faut venir. Et puis, pour la petite anecdote, cette histoire de chat, elle vient d'un témoignage.
Première partie du scénario, donc plus axée sur les événements de 44. Et puis après, vous élargissez la problématique et même la thématique en réalité.
Oui, et je vous propose qu'on passe dans une alcôve suivante.
Oui, alors, je vous suis.
Ici, on va donc vivre un scénario 360. Alors, ça veut dire quoi 360 ? C'est parce qu'en fait, comme on est dans cet espace arrondi, on va avoir un scénario qui va évoluer sur une étape de 360 degrés, donc qui va bouger, en fait, au fur et à mesure du scénario. Là, on va parler de manière plus didactique au public. Donc, on n'est plus plongé en 44, on va partir de cette époque-là. Mais là, on n'est pas dans quelque chose de fictionnel, on est vraiment dans le réel et on va évoquer toute une série de questions vraiment liées aux victimes civiles de guerre. On va partir des attaques aériennes, bien sûr, puisqu'on est dans un abri anti-aérien, mais on va repartir des années 30, revenir à l'époque contemporaine. Ça veut dire qu'on nécessairement le type d'armement a changé. Mais on va aussi adresser toutes des questions sur les victimes de guerre, les victimes civiles spécifiquement, et avec des questions transversales, c'est-à-dire que, par exemple, le fait de se cacher des attaques aériennes, c'était quelque chose de vrai en 44, c'est toujours vrai maintenant, et donc il y a toute une série de questions qui sont abordées dans ce scénario, et là on est dans quelque chose d'un peu plus dense, où on espère que le public va à la fois apprendre des choses, mais aussi être conscientisé sur cette thématique.
Et tout cela via du son, via des effets visuels.
Exactement, donc on a des images d'archives, du son, on a parfois un petit peu quelques petits effets, on a quelques objets aussi qui seront placés dans l'alcôve et qui permettront peut-être au public de prendre vraiment un peu la mesure de la thématique.
Ouais, une découverte à faire donc dès ce week-end, Marianne.
Oui, et je voyais également de nouveau nos invités très, très attentifs. J'espère que ça vous donne envie de découvrir cet endroit.
Clairement.
Oui, ça c'est évident. Un abri antiaérien de cette qualité-là, c'est à visiter et pouvoir aussi découvrir. Et comme ils vont l'aborder avec des questions d'actualité, je pense que ça va être très intéressant.
Une visite que je vous conseille bien évidemment. Et c'est vrai, vous l'avez compris, le but de tout cela, c'est aussi de sensibiliser les visiteurs sur les victimes civiles de guerre. Et c'est un thème plus que jamais d'actualité. Comptez environ une demi-heure, trois quarts d'heure pour la visite, l'expérience immersive. La Cité Miroir est évidemment accessible 7 jours sur 7. Enfin, je dis évidemment non parce que je ne le savais pas. C'est accessible 7 jours sur 7. C'est quand même pas mal. À l'exception de quelques dimanches en été et quelques jours fériés, toutes les infos sur leur site citémiroir.be.
La première. L'agence tourisme,
Marianne Périlleux et Walid.
Nous voici donc en province de Namur en cette fin d'émission pour parler de tourisme mémoriel. On emprunte cette fois la route du Maquis, un itinéraire de 170 km qui traverse trois communes, Jeudine, Bièvre et Vraie-sur-Semois. Et pour nous en parler ce samedi, on a le plaisir d'avoir avec nous Éric Vincent, guide conteur au sein de son association Semois Nature. Bonjour à vous Éric.
Bonjour Walid.
Comment allez-vous en ce samedi?
Mais cela va très 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 bien.
Ah bah écoutez, très heureux de vous avoir avec nous en tout cas aujourd'hui. La route du maquis qui passe par différents lieux de mémoire dans la région de la Semois. Pourquoi, selon vous, un maquis s'y développe-t-il pendant la Seconde Guerre mondiale ?
Ah ben écoutez, notre région est bien connue pour ses vallées boisées et ses épais fourrés. Et en fait, c'était simplement très, très, très adapté pour mener des missions de guérilla et évidemment pouvoir s'y cacher, puisque le maquis était constitué de sections et d'unités totalement autonomes qui devaient évidemment se cacher de l'occupant. En plus, on se dit que l'Ardenne, c'est un endroit bien perdu, mais non, on est sur une position stratégique On est sur une vallée. Et d'ailleurs, en 1944, la preuve en était, c'est qu'un régiment de Panzergrenadiers s'est replié sur Vresse et Membre pour tenir l'Assemois. Enfin, la population ardennaise est connue. Elle n'est pas nombreuse, mais elle est connue pour être fidèle, taiseuse et courageuse. Et ça, en fait, ça permettait d'avoir une vie secrète dans les bois, en collaboration avec la population, mais en limitant les risques de fuite.
Et il y a Corentin qui vous écoute religieusement, effectivement. La constitution de ces maquis dans cette région du pays, elle est importante aussi dans le musée.
Oui, on en parle, et on en parle particulièrement sur la région de Mons. Alors on parle des maquis, mais on parle aussi des mouvements de résistance, comme le Front de l'Indépendance, qui sera très fort dans le Borinage. Alors, à la différence où là on est vraiment dans les forêts, nous on est dans une habitation dense, et donc ils ne se cachent pas dans les forêts, mais dans les habitations.
Ouais, et Eric, la route du maquis qui passe par la commune de Vresse-sur-Semois, une commune que vous connaissez bien, deux lieux sont liés à cet itinéraire. Il y a d'une part le camp des blaireaux, et d'autre part la chapelle du Flachy. On va commencer par le camp des blaireaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Un lieu qui se visite, qui est accessible aux touristes, comment ça se passe?
Ah, mais tout à fait, c'est un des camps du maquis, mais il a la particularité d'avoir été totalement rénové. Fin du siècle passé, c'était pas si loin que cela. Et en plus, comme à Vresse, on a fêté les 80 ans de la libération du maquis il y a un an et demi de cela, en août, eh bien, il a à nouveau été rénové, donc il est flambant comme à l'époque. Ce sont des cabanes bien cachées dans les bois. On peut y accéder par une promenade balisée qui fait à peu près 8 km à pied, mais c'est possible d'y aller aussi de façon plus courte. Tous les renseignements sont à l'Office du tourisme, évidemment. Et ces cabanes-là permettent d'avoir une immersion dans la vie du maquis tel qu'il devait vivre à cette époque.
Mais c'était incroyable parce que c'est, d'après ce que j'ai lu, totalement invisible, en tout cas introuvable pour les profanes. Même la fumée de son feu ne pouvait pas être aperçue de nulle part, c'est bien ça?
C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, Walid. Mais il y a peut-être un petit secret, c'est en fait, quand on se renseigne bien, en fait, il faisait du feu avec du charbon de bois.
D'accord.
Et tout le monde sait que si le charbon de bois est bien sec, quand on fait son barbecue, il ne fume quasiment pas. Là où il est effectivement sur un versant totalement caché. Il faut dire aussi que les occupants évitaient de pénétrer dans les forêts denses, parce que c'est simplement dangereux pour eux, ils ne connaissaient pas tous ces chemins et tous ces sentiers. Effectivement, le fait d'être caché, c'est une des caractéristiques principales de survie.
On va quitter le camp des blaireaux pour parler de l'histoire de la chapelle du Flachy, qui elle aussi est extraordinaire.
Ouais,
Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire?
Alors, vous savez, le maquis, c'était la Belgique. Des gens venaient de partout.
D'un peu partout, oui.
Quelle que soit la religion, quelle que soit leur langue et quelles que soient leurs opinions politiques aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup de victimes qui portaient des noms flamands, dont Yann et Paul. Yann est un jeune flamand qui est très très engagé pour la Belgique, pour le mouvement flamand, mais dans une Belgique, il est étudiant à l'université catholique de Louvain flamande, à Leuven, et là, il agit par rapport à ses coreligionnaires pour essayer qu'ils s'engagent. En 44, lui, il passe le pas, et le 24 août, il démarre vers le camp du maquis des blaireaux, à Vresse-sur-Semois, Orchimont, où il ira. Il s'était marié le 23 août, la veille, avec Rose Davin. Vous savez, Rose Davin, c'était son amoureuse. Il allait passer ses vacances en Ardennes avec sa famille, avec ses parents, et c'est là qu'il a connu Rose. Alors, une belle idylle est née, et Yann démarre le 24 août. Le 2 septembre, il y a Rose qui le rejoint, qui décide de s'engager comme infirmière. Dans le maquis. Voilà. À ce moment-là, les Allemands sont fort présents dans la vallée de l'Assemois et il y a des escouades. Il y a entre autres une escouade entre le maquis des blaireaux sur la route de Membre où ils voient passer deux véhicules allemands et ils en abattent un et l'autre arrive à s'échapper. Ceux qui arrivent à s'échapper remontent sur un petit hameau qui est au-dessus sur le plateau où se trouvent quatre fermes scellées et ils mettent le feu. Il y a une patrouille du maquis qui part des blaireaux pour voir ce qui se passe et Yann et Paul se portent volontaires pour être tout devant comme éclaireurs. Et là, ils se retrouvent face à face à des gens qui apparaissent comme étant désarmés, enfin simplement en chemise et en pantalon. Et ils se font complètement avoir et tombent sous le feu de l'ennemi. Le combat avec l'arrière-garde dura pendant 5 heures. Ce sont les deux victimes qui venaient de s'engager, Yann et Paul, de Flandre au maquis des blaireaux. Ce qui est magnifique, c'est que Rose, quelques années plus tard, fera construire une petite chapelle, la chapelle du Flachy, à l'endroit où ils ont été, exactement où ils ont été abattus. et fera tout pour que Yann puisse y reposer pour l'éternité.
Une histoire d'amour, une histoire de mémoire aussi, hein, et c'est ce que vous racontez magnifiquement.
Et c'est un lieu magnifique. Hein.
Oui, lieu magnifique.
Ah, c'est magnifique. Et Rose la rejoint, savez-vous, le petit truc, elle s'est remariée, Rose, et elle a toujours dit à son second mari que l'amour de sa vie, c'était Yann. Et que quand elle ne serait plus là, elle irait reposer près de Yann. Et donc, si vous allez à la chapelle du Flachier, que vous ouvrez cette porte qui est toujours ouverte au milieu des champs, eh bien, vous pourrez voir sous une stèle, avec une parole de Saint-Exupéry, là où Rose et Yann reposent pour l'éternité dans la paix, devrait être sur ce mois et d'Orchim.
C'est une magnifique histoire.
Très belle histoire. Ouais, très émouvante. Merci Eric de nous l'avoir raconté. Et on rappelle d'ailleurs que ces deux lieux mémoriels ont donné naissance à des balades balisées que vous pouvez donc faire dans la région. La promenade du camp des Blaireaux qui part de Vresse, c'est l'autre balade, la balade de la chapelle du Flachy qui part de Membre mais vers Orchimont. Toutes les infos sont disponibles depuis le centre touristique et culturel de Vresse sur ce mois. Grand merci Eric d'avoir participé à cette émission et on renvoie les auditeurs également vers votre site semoisnature.be puisque vous proposez des balades personnalisées, notamment sur le tourisme mémoriel également.
Merci Eric.
Samedi.
Très bon samedi à vous. Merci à nous avoir été fidèles aussi, vous qui nous écoutez, parce que c'est déjà, malheureusement, ça file à une vitesse hein, quand on raconte ces histoires.
C'est un sujet passionnant.
C'est vrai, c'est déjà la fin de cette émission. Une toute dernière question, tiens, nos deux invités pour conclure. Une phrase pour convaincre nos auditeurs, auditrices de s'intéresser au tourisme mémoriel de cette Seconde Guerre mondiale et de visiter votre musée ou votre site en particulier. Corentin, pour le Mons Memorial Museum, vous diriez quoi, vous ?
Moi, je dirais que ça permet véritablement d'être immergé dans des histoires qui permettent de mieux comprendre la Seconde Guerre mondiale, mais surtout aussi qui permettent de mieux comprendre notre société d'aujourd'hui et les problématiques que l'on a aujourd'hui.
Ouais.
Donc, pour comprendre aujourd'hui, passer dans la découverte de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Ouais, c'est bien dit ça. Amandine, vous, pour le cimetière américain Henri Chapelle, vous diriez quoi pour celles et ceux qui nous écoutent ?
Alors, ce sera peut-être pas aussi bien formulé que ce que Corentin a dit, mais pareil, je vais insister sur les témoignages et les histoires. Nous, ce qu'on aime bien, c'est utiliser les histoires individuelles des soldats, donc parfois voir des lettres, des photos, etc., des témoignages, pour rendre l'histoire avec un grand H plus humaine, plus proche de nous.
Et surtout pour les garder vivants. Ouais, effectivement.
Exactement.
N'hésitez pas en tout cas à consulter l'article qui accompagne cette émission via notre site web et l'appli RTBF Actu, une émission que vous pouvez bien entendu réécouter sur RTBF Ovio. Marianne, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Avec plaisir. À Kiosque dès 14h avec Cynthia Isarelli, le journal de 14h. Et avant cela, un peu de musique avec Aurel. Voici Plus de batterie. Plus de batterie ? Non, on en a encore sous le pied quand même.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.